t'es peut-être déjà demandé à quoi ressemblera le monde de demain. Depuis longtemps déjà, on parle de transition écologique, de changement climatique, mais aussi des ressources que l'on consomme chaque jour, parfois sans s'en rendre compte. Alors au fait, quelles sont ces ressources utiles aujourd'hui et comment les utiliser dans le futur? Comment la recherche scientifique nous aide à réduire notre impact sur la planète? Dans cet épisode, on va tenter de répondre à toutes ces questions en compagnie de chercheuses et chercheurs de l'Université de Namur. Quand les sciences nous aident à répondre aux enjeux climatiques et sociétaux de demain, bienvenue dans Au fait.
Au fait, le podcast scientifique à l'écoute de tes questions.
Avant de parler de ce qui nous attend demain, faisons d'abord le point sur les ressources actuelles de notre planète. Une ressource, c'est avant tout quelque chose qui nous est utile pour satisfaire un besoin au quotidien. On pense par exemple à l'eau, au bois, à l'énergie du soleil ou du vent. Mais certaines de ces ressources sont bien moins visibles, cachées sous nos pieds. Johan Jans, professeur de géologie à l'Université de Namur.
On extrait Homo sapiens de façon générale en un an 106 milliards de tonnes de matière de notre planète. Ça veut rien dire 106 milliards de tonnes. C'est l'équivalent d'une piscine olympique toutes les 3-4 secondes. Donc depuis que je suis en train de répondre à votre question, il y a déjà deux piscines olympiques qui ont été extraites à travers la planète Terre pour l'utilisation d'Homo sapiens de produits usuels. Ça va de diamants que l'on considère être importants pour notre vie jusque des sables, des argiles, des calcaires qui s'extraient en milliards de tonnes pour la fabrication de briques, de ciment, de pavés, de toute une série de produits qui nous paraissent tellement évidents dans notre vie de tous les jours qu'on oublie qu'en fait ça provient de la planète Terre. Et ces produits sont actuellement intensément exploités parce que les nouveaux high-tech, donc les nouvelles technologies consomment énormément de métaux, notamment, pas que des métaux, mais notamment des métaux. Les téléphones portables, les ordinateurs, tout ce qui est transition énergétique également, sont amenés à augmenter la proportion de matière que l'on extrait de la planète.
Et cette consommation de matière ne risque pas de diminuer, à la fois avec les technologies actuelles, mais aussi avec la transition énergétique. Bien au contraire, pour remplacer les énergies fossiles, on a également besoin de matériaux spécifiques pour permettre, par exemple, la construction d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques.
On pense par exemple aux terres rares pour certaines éoliennes. On pense notamment à l'argent pour des panneaux photovoltaïques, du cuivre, du silicium. On pense à du graphite pour certaines énergies nucléaires. Et bien, tous ces produits-là, toutes ces matières-là, sont requises aujourd'hui pour fabriquer les objets qui vont eux-mêmes fabriquer l'énergie d'aujourd'hui et du futur. On extrait donc plus de métaux à l'avenir, mais on extraira moins de pétrole, de gaz et de charbon. C'est ça la transition énergétique. Et cette transition, elle va se faire de façon progressive, elle ne se fait pas en une fois. Il y a des pistes qui vont s'ouvrir et qui vont se refermer après quelques mois, quelques années. Il y a des pistes qui vont s'ouvrir et qui vont véritablement amener durablement à cette transition. Mais dans cette période de transition où nous sommes, on ouvre plein de pistes. De l'hydrogène, des panneaux photovoltaïques, des consommations d'autres matières énergétiques par l'hydroélectricité, par d'autres voies. Certaines vont bien progresser, d'autres vont probablement avoir plus de mal et vont s'éteindre d'elles-mêmes. C'est ça la période de transition.
Avant de développer un peu plus la question de la production d'énergie, Johan Jans parle des terres rares, des éléments particuliers qui se retrouvent de plus en plus souvent dans nos appareils du quotidien. Maï Desclé est doctorante en géologie à l'Université de Namur et elle étudie justement ces matériaux intéressants et désormais indispensables.
Alors moi, l'objectif central de mon sujet, c'est du coup les terres rares. Les terres rares, c'est les 15 éléments de la famille des lanthanides qui sont dans le tableau périodique, dans les deux lignes qui sont en bas, un peu à part, c'est celle du dessus. Et ces 15 éléments sont connus sous le terme « terres rares », surtout dans la recherche, et correspondent à des éléments extrêmement utiles aujourd'hui, ne serait-ce que pour les téléphones portables, les ordinateurs, les voitures électriques, les casques audio, pour faire les éoliennes. Tous les terres rares sont utiles pour créer et aider toutes ces technologies. Du coup, moi, ma recherche se focus sur ces éléments dans des roches qu'on appelle les carbonatites. Ces carbonatites ont déjà de base des concentrations élevées en terres rares et sont les roches principalement exploitées pour obtenir ces éléments. Mais moi, ce que j'étudie, c'est pas tellement la roche même, c'est la partie altérée. Du coup, quand la roche a subi de l'influence de la pluie, de la chaleur, elle va se modifier, se retransformer petit à petit et faire ce qu'on appelle des produits d'altération. Et moi, j'appelle ça un régolithe.
En étudiant ces roches spécifiques, Maé tente ainsi d'améliorer l'extraction des terres rares.
Parce que le gros problème des carbonatites, c'est que souvent ça a un coût environnemental assez important, parce qu'il faut utiliser beaucoup de produits chimiques pour pouvoir les extraire. Alors que dans les produits d'altération, la roche est beaucoup plus facile à extraire, et du coup ça permettrait d'avoir plus facilement les terres rares dans la roche.
Maintenant qu'on en sait un peu plus sur les matériaux qui vont jouer un rôle important dans la transition écologique, on va pouvoir aborder une question essentielle. Au fait, c'est quoi l'énergie de demain ?
Souvent, les gens confondent électricité et énergie.
Laurent Oussiot, professeur de physique à l'Université de Namur.
On a l'impression que quand on parle d'énergie, c'est la prise pour faire fonctionner l'aspirateur, l'ordinateur, etc. C'est beaucoup plus complexe que ça, enfin, beaucoup plus large que ça. Quand on parle d'énergie, il y a un peu d'électricité, à peu près 20% de l'énergie est électrique, on va dire, chez nous. Mais le reste, c'est-à-dire les 80% restants, c'est de l'énergie de combustion principalement. Donc c'est pour se chauffer, c'est pour faire fonctionner le moteur de la voiture à essence, pour faire voler les avions, etc. Donc l'électricité, c'est important, c'est vraiment que 20% du problème, je dirais, énergétique.
Pour la transition énergétique, on passerait donc des combustibles fossiles, qui représentent encore, ceci dit, 80% de l'énergie mondiale aujourd'hui, et on tend lentement, malheureusement, vers une transition où des produits qui fabriquent de l'énergie, comme l'électricité, qui n'est pas une énergie, qui est un transport d'énergie, eh bien ces produits qui fabriquent l'électricité ont besoin, dans leur process, de produits, de matières, qui sont des matières nouvelles.
Et c'est vrai que quand on parle de transition énergétique, on pense assez vite aux voitures électriques, aux transports en commun, aux batteries. Bref, l'électricité joue un rôle essentiel dans la transition. Et petit à petit, le 21e siècle quitte l'âge des combustibles fossiles pour entrer dans l'ère de l'électron.
Pour l'instant, dans toutes les prévisions qu'on peut faire d'ici 2050, c'est que le monde va devenir de plus en plus électrique, si on peut dire. Enfin, on a une électrification très très massive. Donc l'électricité aujourd'hui, c'est 20%, que ce sera plus de 50% en 2050. Donc ça, c'est un peu la grande révolution qu'on ne voit peut-être pas bien non plus, mais le monde est en train de s'électrifier très massivement. Les grands producteurs d'électricité sont très conscients de ce problème, donc ils sont en train de renforcer énormément les infrastructures. Parce qu'on sait que l'infrastructure actuelle, elle est largement insuffisante. Donc on met des câbles un peu partout, même si on ne s'en rend pas compte. Mais on est en train de se préparer à ça. Donc l'électricité, ça semble être vraiment la solution. Parce qu'il faut sortir de la combustion classique de gaz, pétrole, charbon.
Si on cherche à tout prix à sortir d'un modèle basé sur ces ressources fossiles, pourtant très intéressantes d'un point de vue énergétique, c'est avant tout parce que leur combustion génère tout un tas de déchets à la base du changement climatique.
Qu'est-ce qui est la cause de ce réchauffement climatique ? Ça, c'est finalement relativement simple, ce sont les émissions de gaz à effet de serre, surtout le CO2. Donc le grand enjeu pour résoudre ce problème climatique, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est très facile à dire comme ça, c'est très complexe à faire dans la réalité, évidemment.
Ainsi, avec l'augmentation des besoins en électricité, il est essentiel de puiser dans des énergies qui ne vont pas ou peu émettre des gaz à effet de serre.
En Belgique, c'est à peu près un tiers, un tiers, un tiers, on va dire. Donc c'est un tiers nucléaire, parce qu'on a une longue histoire de centrales nucléaires en Belgique. Avant, c'était 55%, donc ça a beaucoup changé. Mais on le sait, hein, y a des réacteurs qui ont fermé récemment. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un tiers qui vient des énergies renouvelables. On n'y pense pas beaucoup, mais un tiers de l'électricité chez nous, ça vient de l'éolien et du solaire. Alors le tiers restant, c'est l'énergie un peu sale, c'est le gaz qu'on brûle, gaz naturel, et un peu de l'énergie qu'on apporte aussi de nos voisins, quoi. Donc c'est à peu près deux tiers d'énergie qui ne produit pas de CO2, et un tiers qui en produit, on va dire comme ça.
On vient de le voir, réduire nos émissions de gaz à effet de serre reste l'élément clé de cette transition écologique, mais aussi l'un de ses plus grands défis. Un peu partout dans le monde, des scientifiques réfléchissent également à des solutions pour capturer et recycler le CO2 émis dans l'atmosphère. C'est notamment le cas ici, dans les laboratoires de l'Université de Namur. Maxime Mathieu est doctorant en chimie et il s'intéresse particulièrement à la conception de matériaux innovants permettant de convertir ces gaz à effet de serre.
Ce qu'on essaie de mettre en place déjà, c'est d'utiliser des matériaux qui sont connue de la littérature, qui possède des propriétés très intéressantes pour capter déjà dans un premier temps les molécules gazeuses, le CO2 par exemple, mais aussi la particularité de mon travail, c'est d'essayer d'introduire de la porosité dans ces matériaux, donc introduire des trous, des cavités, qui vont permettre au final de pouvoir capter une plus grande quantité de gaz pour ensuite qu'il puisse être transformé chimiquement à la surface du matériau pour espérer produire un matériau pur mais en grande quantité.
En prenant ce qui est au départ un déchet issu de l'activité humaine, Maxime cherche à le transformer, à lui donner un nouveau rôle qui pourrait même le mener un jour dans le moteur de nos véhicules.
À partir de CO2 et de méthane, j'essaye de produire spécifiquement du méthanol, qui est en réalité un composé chimique qui est largement utilisé dans l'industrie chimique pour produire plein de choses et qui entre dans la composition de plein de choses comme des colles, des peintures par exemple, ou aussi pour faire certains types de plastiques, mais aussi de manière plus intéressante en tant que carburant alternatif. Ça a d'ailleurs déjà été démontré et utilisé en Chine, où certains transports, comme des taxis ou des bus par exemple, fonctionnent déjà avec du méthanol. Pour moi, la chimie, elle est vraiment intéressante pour pouvoir justement essayer de répondre à tous ces problèmes environnementaux, pour aller vers des solutions plus durables.
Chimie, physique, géologie, mais aussi géographie, politique ou bien encore économie, la transition énergétique et la gestion des ressources impliquent de très nombreux métiers. S'intéresser au monde de demain, c'est aussi s'ouvrir aux autres domaines, comme l'explique Johan Jans.
Ce qui est passionnant dans ces objets-là, c'est que ces cailloux que je montre ici vont générer l'ouverture de toute une série de portes dans toute une série de disciplines. Ça va être bien sûr de la géologie, mais ça va être de l'aspect juridique, ça va être des aspects sociologiques, la façon dont un groupe va réagir, ça va être des aspects techniques, ça va être aussi des aspects historiques. Comment on a évolué, comment on évolue, comment ça va évoluer dans le futur. C'est des aménagements du territoire. Bref, c'est toute une série de portes, de disciplines qui s'ouvrent, rien qu'en prenant ce minerai de cuivre, et ça va partir vers plein de notions différentes, notamment éthiques. Certains minerais sont extraits sur la planète Terre aujourd'hui dans des conditions éthiques qui sont totalement déplorables. Donc il y a tous ces différents aspects qui ouvrent vers une foule de disciplines. Et donc, si vous devez choisir une discipline à l'avenir, vous savez que vous aurez votre discipline à gérer, mais il y en aura plein d'autres qui vont venir s'incruster sur celle que vous croyez être la discipline de base. C'est ça aussi la ressource des sciences de la Terre et des ressources naturelles.
Cet aspect interdisciplinaire est profondément ancré dans l'étude du changement climatique et des actions menées pour préserver notre planète. Mieux comprendre notre monde, nos ressources et les enjeux qui les concernent, c'est aussi une inspiration pour des chercheuses et chercheurs comme Maxime et Maë.
C'est vraiment en me replongeant sur ce que j'aime et en me rendant compte un peu par hasard que j'en avais entendu parler dans un salon SIEP, que je me suis re-renseignée sur la géologie et je me suis rendu compte que c'était exactement ce qui m'intéressait depuis le départ, mais que je ne savais pas ce que c'était.
C'est vrai que pour moi, la chimie, ça a toujours été un domaine qui m'a vraiment plu parce que, au final, la chimie est tout autour de nous, d'autant plus la chimie des matériaux et la chimie des surfaces, ce sur quoi je travaille. Que ce soit, par exemple, du revêtement anti-corrosion d'un avion en passant par des verres ou des vitres auto-nettoyantes, ou la fabrication de matériaux, par exemple, pour les batteries, pour stocker l'énergie. Tout ça a besoin donc de la création de matériaux et de surfaces avec des propriétés spécifiques qui fait que la chimie est vraiment intéressante dans plein de domaines et nous entoure vraiment au quotidien sans qu'on le sache vraiment.
Faire le choix d'un métier scientifique, c'est aussi pouvoir casser quelques stéréotypes et se rendre compte que les sciences jouent un rôle majeur dans notre société.
Il y a aussi le cliché, évidemment, géologue caillou. C'est pas que ça, la géologie. En tant que chercheuse et même en tant qu'étudiant, on s'en rend très vite compte. C'est extrêmement varié, ça a plein d'apports sociétals énormes qu'on ne prend pas en compte. La géologie, ça prend en compte vraiment tout ce qui est la gestion des eaux souterraines. Si on a de l'eau qui sort du robinet, c'est parce qu'un géologue a bien fait son travail. C'est assez essentiel comme métier et c'est souvent très peu connu. Et non, on ne lèche pas les cailloux au quotidien.
J'aime beaucoup la course à pied, alors tu vas te demander quel est le rapport. Mais je vois ça un peu comme une course entre le changement climatique d'un côté et la transition énergétique de l'autre. Pour l'instant, le changement climatique est clairement en train de gagner. Il va beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Mais la transition énergétique est en train de prendre de l'énergie, enfin de l'énergie, prendre de la vitesse aussi. Et donc, on peut imaginer qu'à un moment donné, bah, la transition énergétique va peut-être gagner. Voilà, ça c'est mon côté un peu optimiste.
Nous avons chacun, chacune des responsabilités en termes de choix de société, de choix d'achat. Chaque achat est un acte qui a un sens au niveau de la transition. Et donc, je ne peux qu'inviter tout un chacun à avoir en tête ces aspects-là pour que chaque acte soit vers une transition, de façon à ce que tous ensemble, on y aille de façon progressive, en période de transition, avec des pistes qui vont s'ouvrir, qui vont se refermer, qui vont se développer, mais qu'on en soit bien conscient.
Pour conclure cet épisode, comme le soulignent Laurent Ossiot et Johan Jans, la crise climatique est vraiment la crise du 21e siècle, avec des conséquences que l'on perçoit déjà, ici, chez nous, et partout dans le monde. En écrivant cet épisode, on a voulu apporter un regard positif, en mettant en avant des hommes et des femmes qui contribuent à leur échelle à la transition énergétique. Et si toi aussi, tu veux participer en te lançant dans une carrière scientifique, voici quelques conseils pour toi.
Je dirais d'abord, allez-y, hein, faites des études scientifiques. Je pense que les débouchés, il y en a déjà beaucoup, mais il y en aura de plus en plus. Les métiers du futur seront très fortement liés à la transition énergétique, en fait. Déjà, les métiers de maintenant, en fait, ne sont pas du tout les mêmes que quand moi j'ai fait mes études. Donc on trouve beaucoup de métiers dans le domaine de l'énergie, transition électrique, parce que ça, il va y avoir besoin de physiciens, d'ingénieurs, pour fabriquer ces batteries, pour créer les réseaux électriques intelligents. Donc des métiers de scientifiques, il en faudra, et je pense que la science va être énormément mobilisée justement pour la transition énergétique.
Aujourd'hui, les programmes sont encore monodisciplinaires dans la majorité des cas. Donc vous allez choisir une section, vous allez suivre des études dans cette section. Et choisissez ce que vous aimez, de grâce, choisissez ce que vous aimez. Et ensuite, vous verrez que ça va s'ouvrir vers plein d'autres disciplines, parce que c'est interconnecté. Évidemment que quand on parle de ressources naturelles, on va parler de plein d'autres disciplines qui vont avoir un impact sur les choix, sur les conséquences que l'on va poser actuellement et dans les années qui viennent. Donc prenez ce que vous aimez, faites ce que vous aimez, mais soyez conscient que ça va vous ouvrir vers plein d'autres disciplines.
Alors, si tu souhaites te lancer dans des études ou un métier en lien avec la géologie, la physique, la chimie ou une autre discipline, n'hésite pas à te renseigner, à rencontrer des passionnés, à poser toutes tes questions et surtout, à continuer d'éveiller ta curiosité. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast sur les ressources et la transition écologique. Merci à Johan Jans, Laurent Ossiot, Maë Desclés et Maxime Mathieu d'avoir participé à cet épisode. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Au fait.
Au fait, un podcast réalisé par le Confluent des Savoirs et le service audiovisuel de l'Université de Namur, avec le soutien de la Wallonie.